Entretien sur la première épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1959. Chapitre 15. Première partie, versets 1 à 19. Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi, car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Or, si Christ est prêché, qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité, si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus, et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Si le premier chapitre de cette épître insiste en premier lieu sur le fait que la croix de Christ est la fin de l'homme selon la chair, parce que la conduite des Corinthiens était le fruit d'une chair non jugée, le quinzième chapitre nous présente une notion beaucoup plus simple de la croix. Certaines personnes attaquaient parmi les Corinthiens la doctrine de la résurrection, enseignant qu'il n'y a pas de résurrection de mort, et ceux-ci les laissaient faire. Cet enseignement détruisait la foi. Aussi l'apôtre répète deux ou trois fois que, s'ils l'acceptaient, leur foi était vaine. À cette occasion, il leur rappelle le simple évangile qu'il leur avait prêché. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de passage dans le Nouveau Testament qui nous le présente d'une manière plus élémentaire. Avant d'en parler, je désire remarquer que, lorsque l'ennemi s'attaque à la doctrine de Christ, il a toujours pour but de détourner nos âmes du ciel et de les établir sur la terre. J'en citerai trois exemples. Dans le premier, de Timothée 2, verset 18, Hyménée et Philette disaient que la résurrection avait déjà eu lieu et renversé la foi de quelques-uns. De Timothée 2, verset 18, Hyménée et Philette qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu et qui renverse la foi de quelques-uns. Parmi les Corinthiens, certaines gens disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Parmi d'autres, qu'elle avait déjà eu lieu. Or, s'il n'y avait pas de résurrection de mort, le ciel nous serait fermé, et nous ne pourrions jamais y entrer avec nos corps glorifiés, car c'est de la résurrection du corps qu'il s'agit dans tout ce chapitre. Si, d'autre part, la résurrection avait déjà eu lieu, nous serions condamnés à demeurer dans ce monde, avec des pensées terrestres et sans espérance céleste. Pour étayer leur fausse doctrine, ces hommes s'appuyaient, sans doute, sur la parole de l'apôtre qui dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Dans un troisième cas, ces faux docteurs enseignaient, de Thessaloniciens 2, verset 2, que le jour du Seigneur était là, de Thessaloniciens 2, verset 2, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Les Thessaloniciens, en proie à la persécution, pouvaient être tentés de penser que le jour du jugement était arrivé. Mais la venue de Christ précède le jour du Seigneur, et cette fausse doctrine, en la supprimant, déracinait du même coup la venue de Jésus en grâce, espérance des Thessaloniciens. Nous sommes dans les temps fâcheux de la fin, et nous devons prendre garde de ne pas prêter l'oreille à ces doctrines antiscripturaires. Le but de Satan est de nous séparer de Christ et de nous accommoder au monde, comme si nous devions toujours y rester. Vous comprenez combien il est important pour nous de retenir, dans ces jours-ci, la doctrine de l'Évangile. J'entends souvent des chrétiens me dire « Pour moi, les doctrines n'ont pas beaucoup d'importance. Il me faut la pratique de la vie chrétienne. » Ceux qui ont cette pensée s'exposent à être entraînés par l'ennemi loin du Seigneur et de sa parole. Toucher à la doctrine de la résurrection et de la venue du Seigneur, c'est ramener les âmes dans un milieu où Satan a toute puissance sur elles. Il est très important d'affirmer ces choses dans les jours dangereux que nous traversons. La deuxième épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître à Timothée, la deuxième épître de Pierre et celle de Jude nous montrent que Satan cherche moins souvent à précipiter les âmes dans la corruption et le mal moral qu'à les détourner de la simplicité de l'Évangile, car il sait fort bien que, si nous abandonnons l'Évangile, nous sommes à sa merci. Les doctrines blasphématoires de l'incrédulité caractérisent le plus évidemment les temps de la fin. Beaucoup de chrétiens se laissent égarer dans leur appréciation par le fait qu'on voit des incrédules avérés ayant une conduite morale en apparence irréprochable. Ils oublient que Dieu tiendra compte, avant toute autre chose, de la manière dont les hommes ont traité son Fils bien-aimé et ont estimé son œuvre. Revenons au premier verset de notre chapitre. « Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu. » Verset 3. Ils avaient reçu l'Évangile par le moyen de l'apôtre qu'il avait reçu lui-même. Il ne dit pas ici « reçu du Seigneur » comme une révélation spéciale, mais simplement « reçu ». Les Écritures lui avaient enseigné ce qu'il leur avait communiqué. Ainsi, pour connaître l'Évangile, nous avons, comme l'apôtre, une source unique, les Écritures. Les Corinthiens avaient reçu ce simple Évangile et avaient été sauvés par lui. En quoi consistait-il ?
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et il a été enseveli, et il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures.
Nous trouvons dans la croix de Christ un trésor infini de vérité. Si nous la considérons en détail, les heures de la croix se composent de périodes diverses. Certains faits précèdent la sixième heure, d'autres accompagnent les heures de ténèbres, d'autres enfin suivent la neuvième heure, jusqu'au moment où le Seigneur remet son esprit. La contemplation de chacune de ces périodes est infiniment précieuse.
Mais l'apôtre nous présente ici la croix de Christ comme un tout. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. L'âme qui a reçu cet évangile est sauvée. Il ne lui faut pas autre chose. Les Écritures en rendent témoignage. L'Ancien Testament en est rempli. Toute la loi nous présente une victime, morte pour les péchés du peuple. Abel s'approche de Dieu avec un sacrifice et reçoit le témoignage d'être juste. Les psaumes nous montrent que les sacrifices n'ont de valeur que comme type de la mort de l'agneau de Dieu. Psaume 40, versets 6 et 7.
Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Tu m'as creusé des oreilles. Tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, « Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. »
Le premier des prophètes, Ésaïe, la proclame. Un des derniers prophètes, Zacharie, l'affirme.
« Épée, réveille-toi contre mon berger. »
Selon les Écritures, le fondement de toute bénédiction est que Christ est mort pour nos péchés. Quelle puissance dans le simple évangile! Ensuite, il a été enseveli. Toute son œuvre expiatoire a fini dans le sépulcre où les péchés qu'il avait portés ont été ensevelis avec lui. Enfin,
il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures.
Sa résurrection au troisième jour se retrouve, comme sa mort, du commencement à la fin des Écritures. Isaac est, pendant 3 jours, sous la sentence de mort. Abraham lui trouve un substitut et reçoit le troisième jour son fils en résurrection. Jonas reste 3 jours au sein de la mort, dans le ventre du grand poisson. Au bout de 3 jours, il est rejeté sur le sec et revoit la lumière. À différentes reprises, le Seigneur fait allusion à ce fait dans les évangiles. Vivant ici-bas, il annonce constamment ce troisième jour au peuple et à ses disciples. Le prophète Osée dit,
« Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au troisième jour, il nous mettra debout. »
Mais n'accumulons pas les passages. Du commencement à la fin, les Écritures témoignent de ces choses. Cependant, il fallait encore des témoins oculaires de la résurrection. Nous les trouvons dans les versets qui suivent. Dieu a eu soin de les multiplier. À part les 12, le Seigneur ressuscité a été vu de plus de 500 frères à la fois, probablement en Galilée. Il était donc impossible, malgré tous les efforts de l'ennemi pour en étouffer la rumeur, qu'on niât cet événement. S'il n'avait pas eu lieu, que serait-il arrivé? Nous serions encore dans nos péchés, perdus, sans ressources. Ainsi ces deux faits, la mort et la résurrection de Christ, sont inséparables, comme il est dit aussi dans l'Épître aux Romains.
Il a été livré pour nos fautes, et a été ressuscité pour notre justification.
Si Dieu avait laissé Jésus dans le sépulcre, il aurait été prouvé que l'œuvre entreprise par lui pour notre salut avait misérablement échoué, et les disciples auraient été de faux témoins. Il y a quelque apparence que ceux qui prêchaient aux Corinthiens ces doctrines subversives ne niaient pas la résurrection de Christ. Ils n'en tiraient aucune conclusion et se bornaient à nier, comme les Sadducéens, la résurrection des morts. C'est l'apôtre qui conclut que, dans ce cas, l'homme Christ Jésus n'était pas ressuscité non plus. Si les hommes ne ressuscitent pas, Christ n'a pu ressusciter. Entre tous ces témoins de la résurrection, l'apôtre Paul était son témoin spécial. Jésus avait été vu de lui, comme d'un avorton, d'un enfant né avant terme, n'ayant aucun droit de vivre, mais ayant le privilège de voir le premier, dans la gloire, le Seigneur Jésus ressuscité. Les apôtres l'avaient vu ressusciter au milieu d'eux, puis, les quittant, il avait disparu de devant leurs yeux, mais Paul avait vu autre chose. Le ciel s'était ouvert pour lui. Il s'était trouvé devant cet homme, Jésus, le Dieu qui était lumière, et en avait été terrassé. Mais la même personne, pleine de grâce, s'était adressée à lui. Celui qui était lumière était amour. Paul avait rencontré Dieu à salut dans cet homme.
« Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, »
dit-il. Il ne s'attribue absolument aucun mérite à lui-même et devient le plus grand des apôtres.
« Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. »
Verset 10. Toujours la grâce. Si Paul a été le moyen de présenter cet évangile avec une puissance spéciale, c'est uniquement par la grâce de Dieu en Christ. Si l'on n'accepte pas l'évangile de la résurrection, tout s'effondre. L'œuvre de salut, le pardon des péchés, la justification. Le Sauveur lui-même est perdu. Même la chrétienté professante orthodoxe, qui affirme la résurrection, est loin de lui donner la valeur qu'elle doit avoir. La résurrection du corps a peu de place dans la prédication. Il semble souvent, à entendre ces chrétiens, du reste très estimables, que l'état de l'âme après la mort soit la seule chose qui occupe leurs pensées. Que Dieu nous garde de nous laisser détourner de l'Évangile enseigné dans les Écritures, qu'il nous soit donné, dans ces temps périlleux, de retenir fermement ce simple Évangile, la mort de Christ pour nos péchés et sa résurrection qui est à la fois le sceau de son œuvre et les prémices de notre propre résurrection. Satan cherchera toujours à amoindrir ces vérités dans nos cœurs afin de nous accommoder aux choses terrestres qui ne peuvent nous donner ni force, ni joie, ni assurance. Deuxième partie, chapitre 15, versets 20 à 34.
Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Car, comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang, les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Ensuite, la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux? Pourquoi aussi nous bravons-nous le péril à toute heure? Par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. Si, pour parler à la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis.
Notez que tout ce chapitre traite de la résurrection du chrétien et ne dit pas un mot de celle du non-croyant. S'il y fait une allusion éloignée, elle serait contenue dans ces mots, ensuite la fin. Quant aux chrétiens, l'apôtre montre que leur sort est lié à celui de Christ d'une manière si intime que, si Christ est ressuscité d'entre les morts, nous devons tous aussi ressusciter de la même manière. Cette vérité est inséparable de toute la doctrine de l'Église, corps de Christ, que Paul a présentée aux Corinthiens. Seulement, Christ est ressuscité d'abord, lui seul, d'entre les morts, car il doit avoir le premier rang en toutes choses. Il est, en résurrection, le premier fruit, les prémices de la moisson future. Quiconque est en Adam est voué à la mort. Le seul moyen d'y échapper, c'est d'être en Christ, de faire corps avec celui qui, après avoir été mort, comme le grain de blé tombé en terre, a porté beaucoup de fruits en résurrection. Si j'appartiens au premier homme, Adam, c'est pour mourir, comme il est dit,
comme dans l'Adam tous meurent,
et encore,
il est réservé aux hommes de mourir une fois.
Si j'appartiens au second Adam, c'est juste le contraire. Il n'y a plus pour moi aucune nécessité de mourir, et même la mort de mon corps n'est plus considérée comme la mort, mais est comparée à un sommeil dont je puis me réveiller d'un moment à l'autre. Aux prémices, Christ, sont ajoutés
ceux qui sont du Christ à sa venue.
Cette venue est donc le signal de la résurrection, le complément des deux vérités que l'Évangile nous présente, la mort et la résurrection de Christ. Il se peut qu'il vienne aujourd'hui, demain, dans une année, dans un siècle. Nous l'ignorons, et il ne veut pas nous l'apprendre, afin que nous l'attendions. Et c'est ainsi qu'il nous maintient continuellement dans l'espérance de sa venue. Si nous savions que des événements doivent avoir lieu avant sa venue, nous attendrions les événements et non pas lui. C'est donc à ce moment qu'aura lieu la résurrection d'entre les morts. Mais il y a plus que cela. La venue du Seigneur, cet événement unique, comprend deux actes. Sa venue en grâce et sa venue pour établir son royaume. Lors de ces deux actes, deux compagnies de saints seront ressuscitées. La première compagnie ressuscitée au premier acte comprendra deux catégories de saints. D'abord, ceux qui ont précédé la formation de l'Église, c'est-à-dire tous les saints de l'Ancien Testament qui ont réalisé d'avance, par la foi, l'offrande de l'agneau de Dieu. Ensuite, l'Église, épouse de Christ. Une note en bas de page. Cette dernière est composée de saints endormis, ressuscités, et de saints vivants, transmués. Mais l'apôtre réserve la mention de ces derniers pour la fin du chapitre, car c'était un mystère inconnu aux Corinthiens jusqu'alors. Fin de la note. Tous ensemble seront enlevés en l'air à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Mais la venue du Seigneur comprend, comme nous l'avons dit, un second acte. À ce dernier correspond une nouvelle compagnie de saints, composée elle-même de plusieurs catégories. Premièrement, au chapitre 6, verset 9 de l'Apocalypse, vous trouvez une première catégorie de personnes qui ont subi le martyr après l'enlèvement de l'Église pendant la période prophétique qui précède la dernière demi-semaine de Daniel. Apocalypse 6, verset 9.
Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu.
Ces croyants sont vus à l'état d'âme sous l'autel écrit jusque à quand. Il leur est dit qu'ils doivent attendre encore un peu de temps. Deuxièmement, au chapitre 11 de l'Apocalypse, nous trouvons une seconde catégorie de martyrs mis à mort à Jérusalem pendant la dernière demi-semaine de Daniel. Troisièmement,
Au chapitre 13, verset 15, une troisième catégorie de saints martyrs d'entre les Juifs qui ont refusé de rendre hommage à la bête. Apocalypse 13, verset 15.
Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort.
Quatrièmement, enfin au chapitre 15, versets 2 à 4, une quatrième catégorie de martyrs d'entre les nations, ayant remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur le nombre de son nom. Apocalypse 15, versets 2 à 4.
Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies. » Ô roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés.
Comme nous le voyons, ce ne sont que les martyrs qui forment la seconde compagnie des ressuscités au second acte de la venue du Seigneur. Au chapitre 20, verset 4 de l'Apocalypse, les deux compagnies sont réunies en résurrection. Elles sont assises sur des trônes et le jugement leur est donné. Apocalypse 20, verset 4.
Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans.
Tout ce que nous venons d'exposer est résumé dans le chapitre qui nous occupe par cette simple parole,
« Puis ceux qui sont du Christ à sa venue »,
verset 23. L'apôtre ajoute
« Ensuite la fin ».
Ce seul mot comprend le jugement des morts ressuscités, devant le grand trône blanc après les 1000 ans du royaume de Christ, et le moment où le Seigneur aura remis ce royaume à Dieu le Père, tout en gardant éternellement son caractère de chef et d'époux de l'Assemblée. Alors Dieu sera tout en tous. Telle est cette importante parenthèse. Au verset 29, l'apôtre reprend le sujet interrompu au verset 19.
Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux?
Ce verset n'offre pas de difficulté si vous le rapprochez du verset 18. Quand des chrétiens se sont endormis, d'autres entrent par le baptême dans la jouissance des privilèges chrétiens ici-bas. Les rangs se sont éclaircis, mais Dieu a soin de combler les vides pour garder son armée complète dans ce monde. D'autres prennent la place de ceux qui se sont endormis, afin qu'un témoignage collectif pour le Seigneur se continue. Je suis porté à croire que les morts, comme en Apocalypse 14, verset 13, indiquent les martyrs, mais ce point importe peu. Apocalypse 14, verset 13.
Et jouis une voix venant du ciel, disant, écris, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dorénavant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Il y a un baptême pour les morts. Ce baptême introduit de nouveaux convertis, en lieu et place de ceux qui ont quitté la scène de ce monde, afin que l'armée du Seigneur continue le combat jusqu'à sa venue. L'apôtre ajoute « Pourquoi, si les morts ne ressuscitent pas, ai-je moi-même
combattu contre les bêtes à Éphèse ?»
Expression allégorique comme celle de la gueule du lion, de Timothée 4, verset 17.
« Et j'ai été délivré de la gueule du lion. »
À quoi serviraient toutes mes tribulations? À quoi de mourir chaque jour? Dans ce cas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
jouissons du monde et de la vie, puisque tout finit avec elle. Nous pouvons dire aussi dans quel but toutes nos épreuves, s'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est par les épreuves, comme l'or éprouvé au creuset, que le Seigneur nous prépare pour la gloire. L'apôtre ne reculait pas devant les afflictions et se glorifiait en elles. Il ne voyait pas de sort plus élevé ici-bas que de souffrir pour Christ. C'était plus, pour lui, que toutes les gloires recherchées par les hommes. Aussi exhorte-t-il les Corinthiens à se réveiller pour vivre justement, et à ne pas rechercher, comme ils ne le faisaient que trop, la compagnie du monde qui corrompait leur christianisme et faisait perdre à plusieurs d'entre eux la connaissance du vrai caractère de Dieu. Troisième partie. Chapitre 15, versets 35 à 58.
Mais quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Et quant à ce que tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain, de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu'une des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais différente est la gloire des célestes et différente celle des terrestres, autre la gloire du soleil et autre la gloire de la lune et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption. Il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel. C'est ainsi aussi qu'il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie en victoire ». Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
Nous avons vu que la résurrection de nos corps est une vérité de toute importance, car sans elle la résurrection de Christ n'existerait pas non plus, et nous serions encore dans nos péchés. Il est nécessaire de le signaler pour ceux qui traitent cette vérité de secondaire. D'autres épîtres parlent de la résurrection de nos âmes. Comme chrétiens, nous la possédons déjà maintenant. Nous sommes ressuscités avec Christ, nous possédons en lui une vie de résurrection, et nos corps ne sont pas ressuscités, et c'est d'eux seuls qu'il s'agit dans tous ces chapitres. Quelques personnes, pour satisfaire leur intelligence, auraient voulu savoir comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils. L'apôtre ne répond pas directement à cette question, la parole n'ayant pas pour but de satisfaire la curiosité humaine. Mais il dit, insensé, cette question, si conforme à l'atmosphère de sagesse humaine que respiraient les Corinthiens, n'était que folie. Il rappelle la parole du Seigneur que le grain de blé, tombant en terre, doit mourir pour ressusciter et porter du fruit. Comme il en était de Christ, il en est de même des chrétiens quant à la résurrection. Nous pouvons donc compter que si notre corps est porté en terre, semblables aux grains de blé, nous ressusciterons comme lui. En résurrection, ce sera le même grain, et pourtant il ne sera pas le même. Mais en ce qui nous concerne, il faut que le grain se corrompe pour ressortir incorruptible de son tombeau. Il n'en est pas de même du Christ qui n'a pas senti la corruption. Vous dites, ce n'est donc pas le même grain. Mais l'apôtre dit,
quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé comme il se rencontre, ou de quelqu'une des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et chacune des semences son propre corps.
Il en fournit des exemples et montre que, dans la création animale, il y a des chairs différentes. Pour le prouver, il prend les quatre classes de cette création, l'homme, les bêtes, les oiseaux, les poissons, telles que Dieu nous les donne au premier chapitre de la Genèse. Mais de plus, s'il y a dans la création des corps terrestres, il y en a aussi des célestes, le soleil, la lune, les étoiles. Tous sont glorieux, mais avec des gloires différentes. Si donc l'ancienne création nous enseigne ces différences, il en sera de même en résurrection, dans la nouvelle création. Ce qui est semé en corruption ressuscitera incorruptible, mais jamais
la corruption n'hérite de l'incorruptibilité.
Le corps animal n'est pas le même que le corps spirituel. Nous avons, dans le Seigneur ressuscité, qui en toute chose occupe le premier rang, l'exemple d'un corps spirituel qui peut traverser la pierre du sépulcre, entrer, la porte étant fermée, dans la chambre où les disciples sont réunis, se transporter en un clin d'œil d'Emmaüs à Jérusalem, avec un corps très réel, puisqu'il peut manger et porter sur lui comme il les portera toujours, les marques de la lance et des clous. Tel qu'est le céleste, tels seront les célestes, avec le même corps que le Seigneur Jésus, quand ils seront semblables à lui, corps que lui, les prémices, possède, afin de le porter éternellement dans la gloire. Au verset 51, nous passons à une vérité de toute importance pour compléter le sujet traité dans ce chapitre. Cela reporte nos pensées au chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, quoique les deux diffèrent. Les Thessaloniciens n'avaient pas besoin que l'apôtre leur dévoilât un mystère, car dès leur conversion ils attendaient le Seigneur, et le secret de la transmutation n'en était pas un pour eux. Ils ne connaissaient, sans doute, qu'imparfaitement les détails de la venue du Seigneur, et l'apôtre a soin de les leur donner. Mais s'ils attendaient Jésus qui devait les enlever vivants auprès de lui, ils ignoraient que la résurrection des saints endormis aurait lieu à la venue du Seigneur, et que, dans le même instant, les croyants sortiraient de leur sépulcre pour être enlevés en un clin d'œil au-devant de lui, avec eux les vivants qui n'avaient pas passé par la mort. Les Corinthiens, s'ils avaient besoin d'être affermis quant à la résurrection des morts, ne connaissaient pas encore la transmutation des vivants, familière aux Thessaloniciens. L'apôtre leur apprend qu'elle se liait indissolublement à la résurrection. Ce changement des vivants à la venue de Christ avait une telle réalité pour l'apôtre qu'il disait, car même il se savait destiné au martyre, « Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Il n'est pas nécessaire, pour avoir un corps semblable au corps glorieux du Seigneur, d'être ressuscité d'entre les morts, mais on peut être changé. » Nous trouvons ici deux expressions.
Il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité.
Verset 53. La première s'applique aux morts, la seconde aux vivants. Les morts seuls ont vu la corruption, les vivants sont mortels. En vertu de la victoire de Christ, ce corps mortel sera changé en un corps immortel et ce corps corruptible entrera dans l'incorruptibilité.
La mort a été engloutie en victoire.
Le prophète Ésaïe, auquel cette citation est empruntée, nous dit
« Il engloutira la mort en victoire. »
Maintenant, par la résurrection de Christ,
la mort a été engloutie en victoire.
Quoique cette parole ne soit pas encore accomplie pour nous, aussi l'apôtre peut dire
« Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire ?»
Verset 55. En représentant la mort, il fait allusion au scorpion, la mort, avec son aiguillon, le péché. La mort avait remporté la victoire sur nous et nous dominait après nous avoir empoisonnés par le péché. Maintenant, nous participons déjà à la victoire de Christ. C'est pourquoi il ajoute
« Mais grâce à Dieu qui nous donne,
non pas donnera,
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »
La victoire remportée par lui a été pour nous. Nous la possédons, elle est nôtre. Depuis la croix, Satan est un ennemi vaincu. La résurrection en est la preuve. La mort est annulée, le péché est expié et ôté de devant Dieu. Est-ce que nous réalisons effectivement que la victoire est à nous, qu'elle a été remportée une fois pour toutes, en résurrection, que la mort ne peut plus, par le péché, nous pousser à l'abîme? Et si la victoire a été remportée, nous avons encore, comme l'armée du Seigneur, à garder nos positions jusqu'à sa venue. C'est pourquoi il dit
« Soyez fermes, inébranlables ».
Les âmes fondées sur la victoire de Christ, possédant la vie du dernier Adam, qui est un esprit vivifiant, verset 45, sont capables de tenir ferme. Mais nous avons à y être stimulés réciproquement, à
abonder toujours dans l'œuvre du Seigneur,
avec la certitude qu'il tient compte de tout ce qui est fait pour lui, et que notre
travail n'est pas vain dans le Seigneur.
Dieu a un livre de mémoire dans lequel il enregistre tout ce qui a été fait pour Christ, tandis qu'il ne restera rien de tout ce qui a été fait pour nous-mêmes.